Enquête sociologique auprès des chercheurs, des étudiants et puis des associations. D'une part, pour voir s'il y a de la demande et puis aussi pour voir s'il y a possibilité de répondre à cette demande. On a organisé une journée d'études pour connaître les expériences des différentes boutiques des sciences, y compris à l'étranger, notamment en Belgique. Et puis, on a réalisé un atelier scénario donc pour construire le dispositif, hein, qui est un dispositif un peu participatif qui réunit différents acteurs, donc là, en l'occurrence, chercheurs, étudiants, associations et institutionnels, des représentants de la métropole européenne de Lille et du conseil régional à l'époque, pour définir la structure de la boutique des sciences. Alors, la structuration que l'on a, donc c'est un bureau exécutif multi-acteurs, donc avec des chercheurs, mais aussi des bénévoles et au moins un représentant associatif. On est cinq dans ce bureau. Un conseil scientifique et d'orientation qui est lui aussi multi-acteurs. On est une douzaine à peu près à parité entre chercheurs et représentants du monde associatif. Et on a donc démarré officiellement en 2016 à la Commu Lille Nord de France, qui depuis donc 2019 a disparu. Et aujourd'hui, donc, on a été rattaché à l'Université de Lille officiellement depuis le 1er juillet 2020, et une intégration dans le service de valorisation économique et sociétale de l'Université de Lille. Donc, avec en plus, ça a rajouté donc un comité de pilotage pour voilà, suivre les activités de la boutique. C'est un peu long, peut-être. Ce transparent, juste pour signaler que toutes les boutiques de sciences ont des modes de fonctionnement qui sont un petit peu spécifiques à leur contexte, mais toutes répondent au moins à ce processus un petit peu de traitement de la demande, qui est de faire émerger la demande, donc de la recevoir et de faire une traduction, c'est-à-dire de discuter avec le demandeur, généralement une association, sur sa demande pour essayer de la préciser, d'orienter, de définir une problématique un petit peu de recherche. Et ça doit, je pense, constituer la plus grande valeur ajoutée des boutiques de sciences, qu'est cette traduction d'une demande qui peut être assez floue en une problématique scientifique. Ces demandes donc sont discutées au niveau du conseil scientifique et donc elles sont acceptées ou refusées en fonction d'une charte qu'on a établie. Et donc, il convient ensuite de rédiger le projet de recherche, la fiche de stage pour l'étudiant, et de faire donc le traitement de la question. Et également, à l'issue de la recherche, de diffuser ces résultats au maximum dans l'espace public, de rendre visibles ces résultats et de les mettre à disposition. Et également une phase éventuellement d'évaluation et d'impact des résultats pour améliorer le processus. Alors, peut-être un point de clarification sur ce que nous on entend par recherche participative. Il y a une échelle en fait dans ces recherches participatives hein, qui vont, alors, bon, elle est un peu simplifiée, il y a toute une littérature autour de ces échelles, mais en gros, si on le classe selon quatre niveaux, eh bien, on va simplement du niveau le plus bas, qui est simplement l'implication des publics en termes d'enquêter, ou de terrain pour les recherches, c'est-à-dire l'association comme terrain d'études, jusqu'à une coopération plus affirmée entre les différents acteurs et une coproduction, une codécision à toutes les étapes du projet. Alors, on essaye, nous, de placer donc la boutique des sciences à ce quatrième échelon, Et on insiste donc pour développer des recherches participatives en coproduction des connaissances et des savoirs. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les différents acteurs qui sont autour d'un projet de boutique des sciences, hein, que ce soit les chercheurs, étudiants ou associatifs? Eh bien, pour les chercheurs, sans doute changer de posture, appréhender une nouvelle manière aussi de faire de la recherche, c'est-à-dire comprendre dans quel processus on est pour le chercheur. Pour les acteurs de la société civile, eh bien, la même chose, c'est-à-dire changer de posture et s'engager pleinement dans la recherche comme partenaire de cette recherche, donc en apportant les savoirs des personnes de l'association. Pour les étudiants, donc, c'est la personne qui va effectivement faire la recherche, en général avec un lieu de stage qui est au sein de l'association et encadré donc, par le chercheur. Et c'est vraiment l'acteur qui va jouer l'interface entre ces différents partenaires et la boutique des sciences donc, qui vient accompagner ce collectif de recherche pour permettre d'avoir une compréhension mutuelle, avoir des éléments réflexifs, participer à la co-décision, voir qu'on a bien une bonne formation des ingénieurs et donc intervenir en tant que tiers-veilleur. Et je préciserai cette notion un petit peu de tiers-veilleur qui a évolué au sein de notre structure avec le temps. Et donc, effectivement, on utilise une démarche de recherche participative pour travailler ces questions. Alors, quels intérêts pour les uns et les autres? Eh bien, pour les chercheurs, c'est peut-être éventuellement mettre à jour des questions de recherche un peu émergentes qui ne sont pas travaillées, créer des nouveaux partenariats, des nouveaux réseaux. Pour les acteurs de la société civile, eh bien, c'est développer son pouvoir d'agir. Dire, autonomiser un petit peu ces modes d'action et puis donner des éléments de réponse qui vont permettre de décider des actions à mener au sein de l'association. Pour les étudiants, donc un travail concret avec une utilité sociale directe et une sensibilisation. Donc, en tout cas, pour nous, on fait aussi ce travail de sensibilisation à la recherche-action participative, c'est-à-dire que finalement, par ce biais de l'enrôlement des étudiants aussi, de former à cette nouvelle façon de faire de la recherche. Pour la boutique des sciences, donc, c'est, je pense, important qu'il y ait un lieu un petit peu pour capitaliser un petit peu toutes les expériences qui ont lieu, donc pour créer une communauté de pratique, développer des recherches autour de spécificités propres à la boutique des sciences, c'est-à-dire quelle évolution méthodologique on peut faire au sein des boutiques de sciences là, et propulser éventuellement vers des projets à plus long terme, c'est-à-dire agir comme une phase de faisabilité, d'incubation, qui vont permettre à ces projets d'intégrer des programmes nationaux qui commencent à exister, et puis les programmes européens et plus éventuels. Alors, notre intégration en fait à l'Université de Lille, elle est en phase avec un développement qui avait eu lieu en 2019, donc juste un an avant qu'on arrive, d'un appel à manifestation d'intérêt de recherche participative, donc qui était impulsé par la vice-présidente valorisation de la recherche de l'université. Et ce premier appel en fait était assez mitigé puisque il faisait essentiellement appel aux chercheurs pour développer des recherches participatives pour le monde associatif. Et en général, enfin, l'offre est toujours difficile à rencontrer une demande. Ça, c'est toujours un petit peu ce sens, c'est un petit peu difficile, même s'il peut exister et qu'on peut le faire vivre. Et aujourd'hui, on a de toute façon gardé cette option-là dans l'AMI. Cette AMI, en fait, on l'a reconfigurée à notre à notre processus, à notre mode de fabrication, de développement de la recherche. Et donc, cette AMI, aujourd'hui, elle est partie prenante, vraiment, tout est intégré au sein de la boutique des sciences. Et donc, le processus que je vais décrire, c'est le développement des projets boutiques de sciences se font via l'intermédiaire de l'appel à manifestation d'intérêt. Même si on a pu avoir des interactions préparatoires à un dépôt de projet AMI avec le monde associatif ou avec des chercheurs intéressés à travailler avec l'extérieur. Donc, ça se passe. Donc, il s'agit de sensibiliser avec l'AMI la communauté universitaire aux recherches participatives, de susciter les demandes auprès de la société civile et de financer aussi ces recherches participatives qui sont nécessairement courtes. Hein, c'est généralement un projet de master de 6 mois environné. Et donc, l'ensemble mis en œuvre par la boutique des sciences avec un soutien de la métropole européenne de Lille. Alors, ça se passe comment? Eh bien, en début d'année, donc janvier à mars, on fait remonter les demandes associatives et les demandes des laboratoires. De mars à mai, on fait un travail de traduction sur les questions de recherche à partir des demandes et éventuellement avoir des premiers échanges si l'identification avec un labo de recherche ou des chercheurs est fait, engager donc les discussions avec ces différents partenaires. Mai à juillet, donc la constitution effective des partenaires, donc des collectifs de recherche, et qui vont déposer donc leur dossier de demande de candidature, de financement. Le nombre de dossiers qui est effectivement traité aujourd'hui dépend beaucoup de ces financements. Donc, voilà. Cette année, on aura à peu près 7 projets qui seront financés pour l'année 2021-2022. Et puis d'octobre donc à août, il y a la réalisation des recherches et l'accompagnement des projets. Donc ça reprend là un petit peu, si je veux préciser davantage cet accompagnement. Hein, donc en début d'année, les candidatures, l'échange avec les BDS, on peut réaliser des ateliers collectifs d'ailleurs pour préciser ces demandes. Il nous est arrivé, par exemple, de discuter. Alors, les demandes peuvent arriver, par exemple, via des salariés d'une association qui peut être importante et qui peut concerner, par exemple, le bénévolat. Et on s'est rendu compte que, finalement, cette demande, elle peut être bien mieux précisée si on inclut aussi des bénévoles dans un atelier collectif pour mieux préciser la demande. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place progressivement, ces ateliers collectifs. Donc, sur l'échange donc, entre les différentes partenaires hein, sur le printemps, quoi, à peu près, eh bien là, de nouveau, on peut aussi refaire des ateliers un petit peu collectifs entre chercheurs, associations et puis nous, pour préciser vraiment les enjeux de la recherche, de confronter donc la demande à la possibilité de réalisation par la recherche, donc en quelque sorte qui est une négociation finalement autour de la problématique de recherche pour en faire une question qui peut être traitée par un étudiant pendant 6 mois de stage de master. Vient ensuite le recrutement des étudiants. Donc là, on fait appel beaucoup aux chercheurs ou enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans les masters pour faire ce recrutement, mais on peut aussi passer une annonce, hein, une offre de stage via les plateformes là, de propositions de stage. Et puis, donc, il y a la rencontre de tout ce collectif à l'automne ou début d'année, en fonction du démarrage des masters. Fin janvier, en général, on fait 2 jours de formation organisés avec des consultants extérieurs, hein, qui sont formés à la recherche participative, pour faire 2 jours de formation action avec l'ensemble des partenaires, donc c'est-à-dire les étudiants, les associations et les chercheurs, même si il est difficile de réunir tout le monde pendant 2 jours, c'est toujours un petit peu engageur, mais en tout cas, on essaye de le faire, cette formation action. Et l'accompagnement de la boutique des sciences donc se fait au moins sur 3 temps, c'est-à-dire une première réunion de démarrage, une réunion à mi-parcours et une réunion de fin. Et ce qu'on ajoute maintenant dans le processus, c'est la possibilité, éventuellement à la demande des différents partenaires, eh bien, d'organiser des ateliers un petit peu collectifs sur les différentes étapes d'un projet de recherche, y compris, par exemple, sur des aspects d'analyse de données, hein, où les partenaires extérieurs, acteurs, peuvent finalement apporter, enrichir un petit peu l'analyse qui peut y avoir par les chercheurs. L'année dernière, enfin cette année, on a aussi organisé un atelier entre les étudiants, c'est-à-dire qu'en termes de recherche participative, et ça dépend un petit peu des différents processus, il se peut qu'il y ait besoin aussi dans ce processus des rencontres par pair, par entité. Et effectivement, cette année, on a inauguré un atelier entre étudiants, donc ce sont différents projets. Et en fait, ça a été extrêmement intéressant, en tout cas enrichissant pour nous, mais pour eux aussi, puisque ça leur permet d'échanger sur les difficultés qu'ils ont pu avoir sur le terrain, d'intégrer d'autres façons de faire, enfin, qui est ces échanges. Et puis, voilà. Alors, comme on prend des étudiants en Master 2, donc à la fin de leur cursus, il y a la soutenance de stage et le rendu d'un mémoire. Hein, donc ça, c'est l'aspect purement recherche. Donc une validation un petit peu de la qualité scientifique de la recherche menée. Et on demande par contre un travail supplémentaire à l'étudiant qui est de faire un travail de synthèse par rapport à son mémoire. Et ce travail de synthèse devra être exposé lors d'un événement public organisé par l'association. Et le projet se termine donc à ce moment-là. Alors, je voudrais un petit peu préciser un petit peu le couplage entre chercheurs et acteurs, qui justement cette question des postures. Donc les acteurs, hein, ça peut être des associatifs salariés ou bénévoles, des habitants d'un collectif, des conseillers de quartier, des praticiens ou des représentants éventuellement de collectivités territoriales. Tout dépend de la question posée. Avec des fonctions qui peuvent être, bien sûr, la mise en visibilité de problématiques, l'apport en termes de savoir expérientiel, la collecte de données, bien sûr, si on met au travail un certain nombre de bénévoles, l'enrichissement de l'analyse, et puis surtout, comme le travail était fait de façon conjointe, eh bien, avoir une meilleure appropriation des connaissances produites pour l'action. Les chercheurs, ce sont ceux des organismes de recherche, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs de recherche et donc les étudiants en master. J'ai mis doctorant, on n'a pas eu de doctorant encore actuellement, mais il y a peut-être cette possibilité aussi d'utiliser le dispositif de doctorant conseil, par exemple, hein, qui permet à un doctorant de travailler pour une entreprise ou peut-être aussi sur ce type de projet pendant une journée par semaine, 80% de 20% de son temps. Donc la fonction, c'est de participer à la co-construction de la question de recherche, d'élaborer, de poser la méthodologie de l'enquête, la collecte de données, l'analyse et l'interprétation, bien sûr. Et puis, une fonction importante qui est celle de publier, bien sûr, y compris dans les revues scientifiques, et de participer aussi à la valorisation de l'action, c'est-à-dire aider éventuellement l'association à valider par l'action les connaissances. Donc la position de la recherche, c'est quoi? C'est une coordination ou une animation? Il y a la question de l'enquête, ou alors d'avoir une position complètement extérieure qui est donc plutôt une ressource disciplinaire, dans ce cas-là, pour le projet. En tout cas, ça pose la question de la posture du chercheur qui doit être nécessairement objectivée avant le démarrage du projet. Et il peut y avoir un petit peu deux modèles, soit le chercheur est engagé comme chercheur et animateur du collectif, soit le chercheur est engagé en dehors de l'animation du collectif, et à ce moment-là, on a besoin d'un surveillant. Alors, je mets là trois... Enfin, c'est un essai de typologie, parce que les recherches participatives, c'est extrêmement multiforme et aussi avec énormément de noms différents, hein, recherche partenariale, recherche intervention, recherche action, recherche participative, collaborative, etc. Alors, j'essaye, moi, de classer ça, finalement, en trois grands champs, qui seraient les recherches vraiment collaboratives au sens des sciences participatives, c'est-à-dire où la question de recherche est donnée par le scientifique, et finalement, donc, l'association, par ses bénévoles, va acquérir un grand nombre de données. Typiquement, hein, c'est la démarche naturaliste des sciences participatives. La question de recherche est donnée par la recherche. Un deuxième qui pourrait être les recherches-actions ou les sciences impliquées, où finalement, là, le chercheur en général est impliqué, est engagé dans la recherche. Et la question, elle est issue de la société, c'est-à-dire que le chercheur travaille sur une question qui a été définie, j'allais dire imposée, l'association ou le collectif. Et ça permet de déterminer un troisième champ qui est ce que nous, on appelle recherche participative ou les sciences en société, qui serait en fait une question, une problématique qui remonte un peu générale et où la question de recherche doit être négociée entre le demandeur et le chercheur. Et cette négociation, donc, elle se fait via la traduction et via aussi ces ateliers qu'on essaye de monter. Et en ce sens-là, donc, pour ce troisième champ, le tiers pratiquement est indispensable pour faire l'animation du collectif de recherche. Et c'est ce positionnement-là, finalement, que l'on a au sein de la boutique des sciences. Et un accompagnement donc, qu'on avait sous-estimé peut-être même au départ et qui devient de plus en plus actif. Alors, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à des méthodologies. Alors, celle-ci en particulier qui nous vient du Canada, qui est recherche-action participative, hein, où il s'agit réellement de coproduction de connaissances par la recherche, à partir de problématiques donc concrètes qui doivent se régler par l'action et une implication donc des citoyens au travers de leur participation active à toutes les étapes du projet de recherche. Alors, je ne sais pas si la modélisation là est adéquate. En tout cas, il y a en gros trois champs, donc recherche, action et participation. Les champs, on va dire, les interfaces BI, par exemple recherche-action, hein, donc, ou recherche industrielle, je dirais aussi, on pourrait inclure ça aussi, c'est de la recherche-action, eh bien, sont des choses qui sont présentes aujourd'hui. La recherche ou sciences participatives ou la recherche biomédicale, par exemple, est sur l'interface entre recherche et participation. Si on prend l'interface action et participation, eh bien, on a, par exemple, les Living Labs, l'éducation populaire, les centres de culture scientifique et technique. La réelle difficulté, c'est de condenser en fait, ces trois champs-là en une pratique unique. Donc, la recherche, action, participative. Alors pour ça, on a travaillé, enfin on a intégré un groupe de recherche du CNRS qui s'appelait PARCS, donc l'acronyme anglais pour Recherche Action Participative et Sciences Citoyennes, qui a fonctionné donc de 2013 à 2018, qui a été donc porté par Sylvie Blangy, qui a eu une grosse activité de recherche participative au Canada, et donc qui nous a ramené ces méthodes-là à partir des développements d'un chercheur, enseignant-chercheur canadien à l'Université d'Ottawa. Je n'ai pas développé davantage, je n'aurai pas le temps, mais cette méthodologie de recherche-action participative nous semble intéressante parce qu'elle intéresse aussi bien les chercheurs que les acteurs. C'est-à-dire que pour maintenir un engagement dans le processus de recherche, notamment de la part des acteurs, eh bien, il faut qu'il y ait un travail sur cette possibilité de rendre la recherche actionnable. Et participative, donc c'est un petit peu la différence entre la recherche-action pure, c'est-à-dire que cette action de participation, c'est d'ajouter donc des partenaires autour de ce chercheur et de cet acteur, qui peuvent être simplement les bénévoles de l'association, mais qui peuvent être aussi une collectivité territoriale ou des représentants d'une mairie ou éventuellement aussi d'une coopérative. Alors, quelques enseignements. Tout d'abord, je pense qu'il est important d'avoir des valeurs partagées par les différents acteurs du projet de recherche. Je dis ça parce qu'une des premières actions qu'on a menées avec la boutique, c'était de rédiger une charte. Et c'était vraiment une demande de l'ensemble, enfin, surtout du monde associatif, mais une demande de rédiger un petit peu une charte dans laquelle on décrit exactement ce qui se passe au niveau d'un projet de recherche. Et donc, effectivement, c'est cette notion de valeur. Alors, on a une plaquette, on l'a un peu formalisée, hein, 4 valeurs autour de la coopération, de l'ouverture, de partage et de la citoyenneté. On a identifié ce besoin d'accompagnement. Alors, on l'avait un peu sous-estimé, hein, en pensant que finalement la recherche participative, ça va de soi, mais non, pas du tout. Et de la part du côté de la recherche, mais aussi du côté de l'association, y compris même pour des associations qui ont une culture autour de l'éducation populaire. Parce que l'accompagnement sur un projet de recherche, c'est assez spécifique. Donc l'intérêt des boutiques, c'est vraiment d'avoir un lieu d'incubation. Ça, c'est aussi important de pouvoir identifier un lieu, des personnes pour des personnes ressources, etc. Et ce lieu d'incubation donc, a été prolongé par l'AMI, Recherche Participative, c'est-à-dire que au niveau de l'université, donc on va avoir cette année, normalement pour l'année prochaine, une phase 2 sur un des projets que l'on a mené, c'est-à-dire un financement jusqu'à 70 000 euros pour financer 2 ans d'une recherche qui va se poursuivre et qu'on a menée cette année. Et puis, je pense qu'il est nécessaire de bien réfléchir sur un développement des méthodologies à mettre en œuvre, hein, pour le tiers-veilleur, justement, autour de méthodologies de recherche-action participative, en tout cas pour nous, ce que je pourrais appeler une sociotechnologie appropriée pour la participation. Et donc, ça, c'est notre lien avec le GDR. Alors, quelques exemples, je vais passer rapidement, mais elles sont de différents ordres. Alors, ça nous a beaucoup appris, Un premier autour, par exemple, l'engagement associatif des femmes issues des migrations subsahariennes dans la métropole lilloise, donc, qui a fait l'objet d'un stage avec une étudiante qui est poursuivie en thèse, par exemple. La trame verte et bleue dans le bassin minier, quelle appropriation par les habitants? Donc là, c'était une association naturaliste qui se posait la question de... Alors, ils avaient déjà des liens avec la recherche, mais en termes d'écologie et de biodiversité, mais qui passaient complètement à côté de ce rapport avec la population. Et donc, on a eu cette demande aussi, l'intervention d'une sociologue de l'environnement pour travailler cette question de l'appropriation par les habitants. Un projet autour d'un réseau associatif qui travaille, donc c'est une multitude de petites associations qui travaillent au niveau de la coopération internationale, notamment avec l'Afrique, pour développer une base de données. En fait, on s'est rendu compte avec ce réseau associatif que finalement la communication entre la tête de réseau et puis l'ensemble des associations constituant le réseau n'était pas très bonne, et ce projet nous a donné pas mal de mal, de difficultés à être réalisé, mais c'est quand même, il a quand même abouti. Et puis un autre avec un bailleur social donc qui souhaitait travailler sur la participation citoyenne dans la gestion de l'habitat, hein, dans un quartier d'une commune dans le bassin minier. Et en fait, là aussi, c'était un petit peu difficile, même si l'étudiante a réussi à terminer son programme. Il n'y a pas eu de restitution publique, par exemple, des résultats, parce que les résultats donc étaient étaient des résultats qui demandaient une certaine précaution pour l'exposer. Donc, SIA Habitat n'a pas souhaité avoir plus que ça de diffusion, donc il y a juste le mémoire de recherche de l'étudiant. On a un sujet autour de la promotion de la santé, promotion globale, donc en sciences de l'éducation, donc il s'agissait de former des personnes relais pour les sensibiliser au dépistage des cancers. Et puis un autre, par exemple, de typologie des communautés d'oiseaux nicheurs. Donc là, c'est le groupe ornithologique et naturaliste, hein, donc plutôt une approche de science participative. Mais en fait, avec un couplage entre un chercheur, donc Christophe Luxac, qui est écologue, qui travaille sur l'étude des populations avec des statistiques, et un étudiant qui a été extrêmement motivé par ce sujet, qui nous venait de mathématiques appliqué, et ça a donné quelque chose d'assez intéressant, en tout cas en termes d'interdisciplinarité, qui a montré aussi à ces associations naturalistes, et notamment sur le process statistique, que finalement l'interaction est plutôt intéressante, parce qu'il est quand même plus intéressant d'avoir un bon traitement des données plutôt que d'avoir forcément une très grande masse de données. Et cet étudiant donc, poursuit une thèse en Suède sur un sujet connexe. Voilà. Alors, on a fait un petit peu un inventaire a posteriori, là, parce qu'on a participé à un colloque au mois de juin du réseau de recherche sur l'innovation, donc qui questionnait l'enseignement supérieur et l'innovation responsable. Et donc, à cette occasion, donc on a présenté un petit peu la boutique des sciences et ce qu'on faisait, et notamment en termes de conclusion, de voir que finalement, les sujets que l'on développe s'inscrivent aussi dans le champ de l'innovation donc responsable. Et en particulier, il y a une métaphore hein, autour de cette innovation responsable, enfin, une des métaphores, qui est celle des hélices, avec la triple hélice hein, qui intègre dans l'innovation, donc quelque chose qui est devenu un peu classique, eh bien le monde académique, l'université, le monde économique, les industries, et puis les institutions, donc les États ou activités. Eh bien, aujourd'hui, ces hélices se déploient aussi sur une quatrième qui est justement les aspects un petit peu liés à la culture, relations art-sciences, par exemple, ou donc les aspects créativité, mais aussi d'agréger d'autres acteurs que les trois précédents, et notamment aussi des acteurs de la société civile à but non lucratif. Jusqu'à une sixième qui intègre cette fois-ci les non-humains, en gros, c'est-à-dire les aspects liés à l'environnement, par exemple, à la transition écologique, etc. Et finalement, a posteriori, hein, finalement, en ne travaillant que sur la demande, c'est quand même ça qui sort, et c'est plutôt assez, je trouve, intéressant que ça se pose comme ça. Voilà. Alors, peut-être en termes de valorisation, puisqu'il faut aussi en parler, eh bien, ils sont, à mon avis, de plusieurs ordres, notamment, bon, bien sûr, au sein des projets accompagnés. Hein, c'est, je pense, je ne sais pas si Hélène va parler un petit peu de l'étude d'impact qui a été faite pour la boutique des sciences de Lyon, hein, qui a un recul plus important que nous, qui était assez intéressant. Eh bien, on a des étudiants qui peuvent poursuivre en thèse à la suite des projets. Hein, on a eu au moins deux pour nous. Et également, on a fait deux propositions donc récentes à partir des projets que l'on a conduits. Hein, donc, ces projets, enfin, les personnes en charge de ces projets ont déposé à l'ANR enfin, au moment de l'appel à manifestation d'intérêt. Au niveau développement territorial, eh bien, on a participé donc à un projet, enfin j'ai coordonné, mais la boutique des sciences était impliquée aussi dans le projet, un projet donc appropriation et commun de la transition énergétique qui était financé par un programme national qui s'appelait CITIN, financé par le ministère de l'écologie. Donc ça permet aussi sans doute d'intégrer des projets de recherche avec ces modes de recherche un peu participatifs, où il commence à y avoir une demande en termes d'animation de collectifs de recherche hétérogène. On a fait des propositions à l'AMI aussi en tant que boutique, donc notamment via le réseau des boutiques de sciences, et puis également sur un projet autour de la recherche participative et l'innovation responsable, donc. Hein. Que l'on a un partenariat de 3 ans qui va démarrer ici, juste à la prochaine rentrée, avec l'ADEME sur la transition écologique, qui trouve que notre mode d'intervention dans l'espace public est intéressant, donc on va nous financer un chargé de mission pendant 3 ans pour aller interroger la région des Hauts-de-France et notamment les territoires qui sont éloignés des pôles universitaires. Et également, on a des partenariats donc avec le mouvement associatif Hauts-de-France, qui est un regroupement d'acteurs associatifs, ou la Maison régionale Environnement et Solidarité, qui regroupe 110 associations dans ce secteur-là. Voilà. Et au niveau académique, donc, cette possibilité aussi de publier sur la recherche participative, de communiquer notamment via la conférence Living Knowledge, qui a lieu tous les 2 ans au niveau international, et puis le Forum Innovation, par exemple, plus récemment, de participer à des écoles thématiques autour des développements méthodologiques de la recherche participative, et un nouveau DGDR donc, qui est en phase de constitution actuelle. Voilà. En guise de conclusion, je vais terminer par ça. C'est concrètement c'est penser un petit peu cette notion de défi sociétaux, hein, puisque c'est un petit peu ça. Ces structures sont un peu transversales, en tout cas interrogent des questions, des problématiques transversales, et donc viennent quand même beaucoup percuter le fonctionnement classique de la recherche qui est extrêmement spécialisée aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a une évidence pour moi d'apport des SHS pour traiter ces problèmes, ces défis sociétaux et ces transitions. Transitions pensées non pas en termes performatifs, mais réellement en termes de mise en mouvement, mise en action et relations pour faire des relations entre action et connaissance. Et c'est pour ça que tous ces termes de société inclusive, science ouverte, innovation responsable, il nous semble que la démarche de recherche participative comme méthode des sciences en société, c'est-à-dire le monde académique non pas complètement découplé de la société, est une orientation intéressante. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Merci.
Merci beaucoup.